démocratie et ils veulent partir dans la facilité. Il dit non, ces choses ne sont pas pour nous. Il dit non, ce n'est pas pour nous. Donc ils essaient d'emmener cela au Seigneur, devant le Seigneur. Vous allez terminer dans le lac de feu. Mais vous pouvez voir que le Seigneur est en train de dire, s'il vous plaît, sauve-toi. Sauve-toi, prends une couverture là, une petite couverture là. Il dit non, un serpent va me mordre, je ne peux pas partir là-bas. Et maintenant, que veux-tu? Il dit ce que tu veux faire, nous sommes prêts. Il dit non, que cette ville est petite, je veux aller là-bas. Je vous le dis, quelle génération? Mais ce qui est incroyable, ce qui est énorme, la volonté de Dieu est exprimée là. Le Seigneur va réduire ses demandes. Et donc nous allons voir ce qui arrive. Il dit, n'est-ce pas? Et que mon âme vive. Donc maintenant, il sait son propre plan de salut. Le Seigneur dit, j'ai préparé quelque part pour toi, du miel et des fruits pour toi dans ces caves. Il faut partir et tu vas vivre là-bas sans le cancer et toute chose. Et tu dis, non, je veux partir dans une petite ville et être mieux là-bas. Je veux que tu puisses te nourrir du miel. Et tu dis non, je veux partir dans une petite ville là-bas pour continuer. Même si je ne continue pas totalement, mais au moins je vais continuer avec mon style de vie. Comment? Le créateur de la vie, le protecteur, vous dit il faut courir jusqu'à la cave. Les temps sont mauvais. Ça, c'est l'Apocalypse. Et toi, tu joues. Nous ne voulons pas de luxus sur cette terre, n'est-ce pas? Cela est sérieux, n'est-ce pas? Très sérieux. Il continue en disant, verset 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Regardez cela. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Je ne frapperai pas la terre jusqu'à ce que l'Église entre dans la gloire. Alléluia. Je ne peux pas juger la terre jusqu'à ce que vous entriez dans les cieux. Parce que quel est le point en vous donnant le salut? Pour vous sauver de quoi? Pour vous sauver et vous mélanger avec les gens méchants et les détruire? Quel est le point? Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, vous voyez la pré-tribulation. Alléluia. Vous voyez aussi cela dans les jours de Noé. Mais il y a quelque chose et d'énorme que nous allons voir quand nous entrons dans le message lui-même. Regardez, c'est sérieux ici. Numéro un, c'est que pendant les jours d'Adam, un peu ont été sauvés. Le jour de Noé, un peu ont été sauvés. Le jour de Lot, un peu a été sauvé. Et il dit que seulement la famille de Noé a été sauvée. Seulement la famille de Lot est sauvée. Et quand on arrive à Enoch, seulement Enoch est enlevé. Si vous allez dire, comme c'était en ces jours, ainsi soit-il, alors, cela s'accomplira, n'est-ce pas? Sommes-nous toujours ensemble? Cette écriture, c'est mauvais. Je vois l'archevêque ici maintenant en train de dire que cela est très mauvais parce que un peu de personnes a été sauvées. Seulement un nombre peu de personnes. Ceci est sérieux. Seulement un peu, quelques peu ont été sauvés et il avance en disant. Donc il lui a accordé la volonté au verset 22. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Verset 26, c'est là où le Seigneur voulait arriver. Il dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel, un monument de sel. Ceci est sérieux maintenant. Très, très sérieux. Ceci est maintenant là où je voudrais arriver et introduire quel est le message. C'est maintenant l'écriture qui conduit dans notre conversation aujourd'hui. Le Seigneur dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Va, établis cela pour eux, cette écriture, lorsque je les ai avertis. S'il vous plaît, souvenez-vous de la femme de Lot. Cela est sérieux. Elle a regardé derrière et est devenue un pilier de sel. Ceci est sérieux. Par moments plus tard, un groupe avec Korah, ils vont regarder en arrière et il les a frappés. Premièrement, quelque temps après, dans un autre futur, dans le livre d'Exode, d'autres personnes, Korah, ils vont regarder en arrière en Égypte et ils sont frappés par le Seigneur. Donc s'il vous plaît, ne le faites pas. Ne le faites pas, ne regardez pas en arrière. Aïe, c'est sérieux. Et même que nous commençons maintenant, on y va dans Hébreux chapitre 6, versets 4 et 8. Versets 4 et Hébreux chapitre 6, allez avec moi là. Hébreux 6, versets 4 et 6. Hébreux 6, versets 4 et 6. Si vous êtes avec moi, dites Amen, Taïwan. Il dit ce qui suit. Ils ont regardé derrière. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont regardé en arrière. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour avoir regardé en arrière? Il dit, va leur dire de se souvenir d'elle. Hébreux 6, versets 4 à 6, il dit, car il est quoi? Je veux vous entendre en tous, en chorale. Car il est quoi? Car il est impossible. En d'autres mots, il n'est pas possible. Une fois que Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ce n'est pas possible du tout pour l'éternité de l'éternité. Il parle maintenant de l'Église après les avoir avertis. Il dit, souvenez-vous de Madame Lot, souvenez-vous de la femme de Lot. Et nous avons vu qu'elle n'est pas quoi? Elle a regardé en arrière. Elle s'est souvenue de la maison palacieuse. Elle s'est souvenue des barbecues. Elle s'est souvenue de, du divertissement des invités. Lorsque les invités sont venus à la maison et la bonne nourriture, et lorsqu'elle se réveillait et qu'elle a salué sa famille en train de se réjouir des petits déjeuners, mais elle va dans le jardin, elle va accueillir des invités et j'établis ceci, ceci est pour vous ce soir. J'achète de petites parties de l'or. Elle s'est souvenue des bonnes choses, des bontés, les bonnes choses, les plaisirs de cette terre, de cette vie. Et le Seigneur dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Maintenant, regardez ceci. Après que le salut soit venu, le livre d'Hébreux, chapitre 6, verset 4 à 6, il dit, il est quoi? Impossible que ceux qui ont quoi, qui ont fait quoi? Ceux qui ont reçu Christ. Est-ce que vous êtes maintenant en train de comprendre? Ceci est sérieux. Très sérieux. Il dit maintenant, il est impossible, ce qui veut dire pas possible. Il est impossible pour ceux qui ont une fois été éclairés. Il dit ceux qui sont partis à l'université, ça implique ceux qui ont reçu la vie de la grâce. Ce sont ceux maintenant qui ont été éclairés, se former, qu'ils savent, qu'ils sont dans la connaissance. Il dit qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, il dit qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, si j'étais vous, j'allais mettre ma liste verticalement, comme nous sommes en train d'établir cette liste verticalement maintenant sur les choses de l'Église. Une fois que vous avez, c'est impossible. Quand vous construisez, alors cela est une autre compréhension. Je pense qu'il est aussi en train de nous définir les caractéristiques des chrétiens sauvés, les nés de nouveau. Donc, pendant qu'il est en train de dire, il dit qu'il est impossible que ceux qui ont ce qui suit soient ramenés à la repentance s'ils sont tombés. De dire, être né de nouveau et dire les choses de là-haut. Il est en train de dire, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont le salut et qui ont été numéro un éclairés verticalement, numéro deux qui ont goûté le don céleste, numéro trois qui ont eu part au Saint-Esprit, numéro quatre qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et numéro cinq et la puissance du siècle à venir, numéro six et ainsi de suite. Il dit, s'ils tombent, il est impossible pour eux d'être amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour le corps le Fils de Dieu, ils exposent à l'ignominie. Il est en train de dire, va leur dire, souvenez-vous de la femme de Lot, que lorsqu'elle a été libérée, les anges ont attrapé ses mains, touché les mains du mari, touché les mains des enfants et les tiré pour les faire sortir de la ville, les faire sortir du lac de feu, de l'enfer. Il est en train de dire que lorsqu'ils sont sortis, sauvés et libérés, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé en arrière. Elle s'est souvenue de la richesse, des trésors du monde, ce qui est momentané, ce qui est temporaire. Les barbecues, les bœufs de barbecue, le poulet de barbecue, le poulet braisé, le poulet grillé, le riz chinois, les œufs. Elle s'est souvenue de toutes ces choses, les bonnes choses. Elle s'est souvenue des plaisirs temporaires du monde. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Essa a fait? Où ça était si? Et pour les plaisirs temporaires, il a vendu son héritage éternel. Et il dit que c'est ce que l'Église du jour présent est en train de faire. Ils sont nés de nouveau, mais lorsqu'ils sont tirés devant, ils regardent derrière, et c'est ce que le monde a fait. Le monde est en train de se réjouir. Le monde est entré de retour à leur style de vie, en train de porter des mini-jupes, en train de porter de courtes robes. Ils veulent que le monde voie leur nudité, comme le monde. Ils sont en train de porter des pantalons serrés, montrant leur poitrine comme le monde, en train d'ouvrir leur poitrine comme le monde. Ils sont impliqués dans l'immoralité comme le monde. Ils sont en train de goûter au vin comme le monde. L'Église de Christ a fait quoi? Pendant que Dieu a attrapé sa main et qu'il l'a tirée pour la faire sortir, elle a regardé en arrière. Il est en train de dire qu'il est impossible, ce qui veut dire pas possible, pour qu'il soit ramené à la repentance, au salut. C'est sérieux. Une fois que vous avez été éclairé, une fois que vous avez goûté aux dons célestes, une fois que vous avez partagé au Saint-Esprit, une fois que vous avez goûté la bonne parole de Dieu, une fois que vous avez goûté la puissance du siècle à venir, si les messagers seuls, cette génération est différente d'une autre, une génération passé à cause des messagers, à cause des messagers du royaume à venir. Et ils sont en train de bouger avec la puissance, en train d'ordonner au Brésil que les paralytiques marchent, l'ouverture des cieux, la venue de la nuée. Ils appartiennent, ils veulent voir ceci, ils voulaient voir cela. Donc quand vous regardez la manière dont les messagers de Dieu sont en train d'opérer maintenant, vous pouvez facilement dire « Wow, si les messagers ont ordonné au ciel et la pluie est tombée, s'ils peuvent appeler Dieu et Dieu vient, ils peuvent ordonner de loin de Nairobi et les paralytiques se mettent debout, les oreilles sourdes s'ouvrent. Qu'en est-il de la puissance du Messie lui-même quand il arrive? » Il dit, si les messagers sont venus avec une telle énorme puissance où ils vont secouer le neutron et l'univers entier, la création toute entière. Mais je ne vous ai pas dit l'un des neutrons que j'ai pris d'une autre galaxie et l'autre j'ai pris d'une autre galaxie, et c'est incroyable. Et je les ai mis en collusion et j'ai secoué la création tout entière. Alors combien beaucoup plus le Messie lui-même, la puissance de la gloire lorsqu'il arrivera? Combien est-ce que la terre va secouer? Combien? Les puissances à venir, ils ont goûté cela, ils l'ont perçu. Ils ont vu que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de paralytique. Ils ont vu les puissances du royaume à venir, que dans ce royaume, il n'y a pas de personne aveugle. Ils ont vu que dans les puissances du siècle à venir, si quelqu'un était mort en ce jour, les yeux et les oreilles s'ouvrent et ils montent. Oh oui. Oh oui. Ils ont goûté. Cette génération à goûter les puissances du siècle à venir. Ils peuvent maintenant dire que le royaume à venir est un royaume de puissance, puissance, puissance pleine, puissance véritable, non pas puissance politique, non pas puissance économique, non pas puissance démocratique, mais une puissance véritable, une puissance réelle, le royaume à venir. C'est ce dont il est en train de parler ici. L'importance du salut. Il est en train de dire que cette église ici, dans le livre d'Hébreux 6, 4 à 6, que cette église a les détails les plus hauts. Parce que quand vous regardez cette église, dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, il est en train de parler, c'est comme s'il est en train de parler au ministère de repentance et sainteté, n'est-ce pas? Parce que seul ce ministère a vu la nuée en train d'être appelée, a vu la puissance, a vu les neutrons en collision, a vu la véritable puissance du siècle à venir. N'est-il pas vrai? Lorsque vous regardez aux détails ici, les détails sont si hauts pour vos églises apostates. Les détails sont trop hauts pour eux. Être éclairé, partager, goûter aux dons célestes, partager au Saint-Esprit, goûter à la bonne parole et la puissance à venir. Donc vous pouvez dire que ce n'est pas l'église apostate. Ils ont même été loin dans l'église. Et il y a des églises avec des CV très hauts, des détails très hauts. Ils ont déjà perçu que cette église est véritablement née de nouveau. Ça, c'est la véritable définition d'être né de nouveau. Mais vous devez être éclairé. Numéro 2, vous devez avoir goûté au don céleste. Vous devez avoir partagé au Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'il réside en vous. Dieu réside en vous. Vous devez avoir goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. Et il dit que si vous avez tout ce qui est là-haut et que vous êtes tombé, alors il est impossible que vous soyez ramené à la repentance. En d'autres mots, si vous recevez Christ et que vous commencez à vous comporter comme la femme de Lot, vous regardez en arrière au péché, vous regardez en arrière au monde, vous regardez en arrière à l'apostasie. Vous regardez en arrière à la décadence. Plus de sacrifice n'est disponible, dit le Seigneur. Donc quand il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot », vous comprenez maintenant comment est-ce que cela est sérieux à l'Église. Et dans le même Hébreu chapitre 6, vers chapitre 10, Hébreu 10, verset 26, il dit, Hébreu chapitre 10, Hébreu chapitre 10, j'attends que Taïwan soit, Hébreu 10, verset 26 à 31, 26 à 31, Hébreux 10, 26 à 31, il dit ce qui suit. Un autre avertissement dont vous devez vous souvenir de la femme de Lot. Dont vous devez vous souvenir de Madame Lot. Un autre avertissement, Hébreux chapitre 10, verset 26 à 31. Et j'espère que la diffusion est aussi en train d'ouvrir une Bible. Parce que c'est sérieux. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 31. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Le mot important ici, c'est volontairement. Vous savez que cela est péché. Et vous voulez entrer dans cela, et il dit que lorsque vous allez à cela, vous ne serez pas capable de dire, je vais retourner me repentir. Il vous avertit très fortement, très haut, avant même de penser à y aller. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 27. Établis cela pour vous très clairement qu'il y a une ligne très fine. Verset 27 vous établit très clairement qu'il y a une ligne très fine entre être un ami de Dieu et être un ennemi de Dieu. Une ligne très fine. Versets 26 et 27 établissent très clairement qu'il y a une ligne très, très, très fine, très mince, une ligne très, très mince entre être un ami de Dieu et être un ennemi de Dieu. Il dit, pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont le peuple de Dieu, s'ils choisissent de retourner dans le péché, de regarder en arrière comme Madame Lot, il dit qu'ils sont convertis immédiatement en ennemis de Dieu. Et qu'est-ce qui les attend? Le lac de feu, le feu ravageur qui consume les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu. Ceci est sérieux, peuple béni. Sérieux. Il est en train de dire, verset 28, « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pieu le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?» Verset 30, « Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible, c'est une chose horrible, c'est une chose redoutable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. L'avertissement que Madame Lot présente à cette génération, le Seigneur exalte, il élève Madame Lot. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi? Parce qu'elle a tenté de regarder derrière et elle a été frappée. Les dangers de regarder derrière que vous voyez a consumé l'Église du jour présent. Vos chrétiens modernes d'aujourd'hui ont regardé derrière totalement. Vous voyez, c'est quand vous partez et vous essayez de regarder derrière, vous ne pouvez pas. Vous essayez de regarder en arrière, vous ne pouvez pas. Mais l'Église du jour présent s'est déjà retournée. Si vous regardez leur programme en train de montrer les jeunes hommes, quelqu'un vient pour séduire une jeune fille, pour draguer, si vous voyez leurs avortements, l'immoralité, leurs vêtements dans l'église, la deuxième femme du pasteur, les hommes aujourd'hui dans la rue, ils viennent chercher une bonne fille, une jolie fille qui est bonne. À un point que je me souviens, il y a une femme qui est venue vers moi et elle a dit dans ce conseil, est-il bon que quelqu'un emmène son mari à l'église ou c'est mauvais? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, c'est bon, tu dois emmener tout le monde. Elle dit, mais moi, quand il est parti dans cette église, il a eu une fille là, il a enceinté et maintenant nous sommes deux femmes. Ça, c'est l'identité que l'église a présentée. Ça vous dit que non pas seulement l'Église, mais aussi le monde, ils disent, on va retourner en Égypte. Là-bas, on mangeait dans de grands pots de poisson. On mangeait de grandes tomates, de la rivière. Et on avait du pain de la boulangerie. Korah, Nabila, ils ont été frappés là. La terre s'est ouverte et l'Éternel les a frappés instantanément. Il dit, souvenez-vous de Madame Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Je suis juste en train de lire le troisième verset et nous allons prendre une pause parce que j'ai dit que c'est un service très long. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce service très long? Alléluia.
Amen.
Je suis heureux, vous n'avez pas dit qu'il n'y a, oui.
Elie, n'ouvre pas.
Et maintenant, ceci est sérieux. Vous comprenez à comprendre la gravité. Lorsque le Seigneur a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait qui est devenue une catastrophe éternelle? Qu'est-ce qu'a-t-elle fait? Le Seigneur est maintenant en train d'utiliser, vous comprenez maintenant, là où quelqu'un emmène quelqu'un qui a perdu son âme permanemment, éternellement dans le lac de feu. Il utilise cela maintenant pour établir pour vous un avertissement à l'église du jour présent. Les dangers, l'avertissement de la désobéissance, de l'hésitation, l'avertissement à la rébellion. Vous voyez, beaucoup de fois, je ne sais pas pour votre pays, mais beaucoup de fois, dans les pays comme le Kenya, lorsque les accidents pourraient arriver, quand se voit les accidents de route, ça peut consumer une population, ça peut véritablement consumer beaucoup de personnes, les accidents sur les voies. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'un des pires accidents où le cas, la voiture a été totalement détruite et même tout a été détruit. Ils prennent normalement cette voiture et ils mettent dans un lieu stratégique comme un pilier pour dire qu'un accident de la route est arrivé. Et lorsque vous allez sur l'autoroute, vous voyez ce véhicule, cette voiture. Ils ne prennent pas l'image de personnes bien dans une bonne voiture qui reviennent en famille pour sensibiliser, ils ne le font pas. Ils prennent une voiture qui a été détruite, très, 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 très mauvaise. Et ils prennent cela, ils construisent un pilier de métal et ils mettent l'image là et ils vous choquent de sorte à ce que quand vous regardez, vous savez que dans cet accident, tout le monde est mort. Et c'est comme cela qu'ils font une partie très stratégique de l'autoroute pour sensibiliser. Et donc, quand vous êtes en train de rouler, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Afin que lorsque vous êtes en train de rouler pour passer là, vous conduisez, vous passez là, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot, souvenez-vous de ces morts-là, souvenez-vous du danger de faire cela, de faire ceci. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. En d'autres mots, lorsque quelqu'un a un accident de voiture, un accident de voiture où 56 personnes sont mortes, et il établit cela là, sur la route, et vous voyez, pendant que vous êtes en train de conduire, vous voyez que cette personne est là, alors cela vous interpelle sur votre vie. Cette personne vous aime, cette personne est en train de combattre pour votre âme, cette personne voit que vous êtes en train d'entrer dans un danger, ils ne veulent pas que vous terminiez comme cela, ils sont en train de vous sensibiliser pour votre vie. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de vous sensibiliser pour votre vie. Il dit, souvenez-vous de Madame Lot. Et nous avons vu dans le livre d'Hébreux 10, 26 à 31, que c'est une chose très terrible de recevoir la grâce d'être né de nouveau et de choisir délibérément de retourner dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il dit que le sang de Jésus est le sacrifice ultime. Le sang de Jésus est le seul sacrifice que le Père accepte. Et donc, si vous abusez le sang de Jésus, alors il n'y a plus d'autres sacrifices disponibles pour vous. Et Jésus a donné toute sa vie là. Et il a mis une puissance suffisante pour libérer l'Église, pour vous retirer du péché à la sainteté, du monde au royaume de Dieu, du lac de feu au ciel, à la puissance suffisante. Donc quand vous recevez Jésus et que vous retournez au péché, vous êtes en train de mettre en honte Jésus. Vous êtes en train de mettre la honte sur Jésus. Vous êtes en train de faire que les ennemis de Jésus se moquent de lui. Vous êtes en train de faire que Jésus vous entend. Il dit, écoute, la première croix n'est pas assez. Donc, en d'autres mots, vous êtes en train de le crucifier encore et vous entendez les percées de mains, pas. Ils sont en train de le percer et la paume s'ouvre et la plaie. Je vous demande, êtes-vous informé que certains aspects de la croix n'ont pas été présentés dans la Bible? Êtes-vous informé que lorsque le Seigneur m'a montré comment Jésus a été crucifié, certaines parties ne sont même pas dans la Bible. Les aspects de crucifixion à la croix, certains ne sont même pas dans la Bible. Ce qui a été mis dans la Bible, c'est une forme de gentillesse. Donc, vous pouvez ne pas prendre cela au sérieux. Mais laissez-moi vous parler au sujet de cela. Regardez cela. Dans la crucifixion, ils se sont assurés que vos jambes, éventuellement, vos jambes vont pourrir. Ils s'assurent que vos jambes ne touchent pas le sol, afin qu'ils ne puissent pas venir et manger vos jambes. Les animaux sauvages ne viennent pas manger vos jambes. La crucifixion par laquelle Jésus est parti, ils vont prendre la main-jambe, ils vont la mettre jusqu'à la fin et ils vont pointer. Et ils vont prendre l'autre, ils vont pointer. Et vous ne pouvez pas respirer. Respirer, c'est impossible. Votre poitrine ne peut pas respirer, savez-vous? Savez-vous que la partie la plus pire de la crucifixion, la Bible a civilisé cela. La Bible a adouci cela, mais la crucifixion, ils prennent les mains très loin et ils pointent, ils percent en profondeur. Ils prennent la main droite et ils percent en profondeur comme s'ils vont éclater la main, diviser la main. Respirer est impossible parce que quand vous respirez, votre poitrine veut sortir. Et quand ils font cela, c'est pas impossible. Il est impossible de respirer. Il n'était pas possible de respirer. Pas possible de respirer. Savez-vous que l'agonie réelle de la croix n'a pas été présentée dans la Bible? Savez-vous que la crucifixion dont il vient, l'acte, cela est dans la Bible. L'acte simple. Avec un acte, ils vont venir, ils vont couper les jambes et les animaux sauvages vont vous manger. Il y a beaucoup d'aspects de la crucifixion qui n'ont pas été ouvertes dans la Bible. Il y a plusieurs aspects de la crucifixion que le Seigneur m'a montré lorsque le Messie a été crucifié. Lorsque je me souviens de cela, je suis toujours en pleurs, comme un enfant, je pleure. La honte, je ne veux pas mentionner tout cela. Il y a des aspects de la crucifixion qui ne sont pas dans la Bible. Je me souviens même que Dieu le Père a dû le préparer d'abord avant qu'il ne parte. Avant qu'il ne l'emmène à la crucifixion, il devait le préparer d'abord. S'il vous plaît. Savez-vous qu'il y a plusieurs aspects de la crucifixion qui ne sont pas présentés dans la Bible? Le sérieux, les aspects sérieux de la crucifixion. Par exemple, tu ne peux jamais respirer. Ils prennent la main gauche jusqu'à la fin et ils pointent là avec une longue pointe pointue qui est très aiguisée. Et ils vont tirer la main droite jusqu'à l'autre extrémité, jusqu'à ce que tu ne peux même pas respirer. Ta poitrine, il est impossible de respirer. Donc quand il dit, va leur dire de se souvenir de la femme de Lot, de se souvenir des dangers, de prendre le salut de Christ aussi haut qu'on se l'a et de retourner en arrière, de regarder en arrière, s'il te plaît, va leur dire, s'il te plaît, va établir un avertissement. Il dit, il n'y a plus de sacrifice pour cela.
Mais c'est le jour où il va se brûler qu'il
maintenant vous comprenez.
Mais avec la
parce que cela a été l'ultime. Le sacrifice ultime, le sang de l'agneau. Le sang de Jésus, celui qui a ouvert les yeux aveugles à Kericho aujourd'hui, qu'on a célébré aujourd'hui de Brésil. Vous ne pouvez pas abuser de ce sang, la manière dont l'Église du jour présent est en train d'abuser et terminer dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas. Je n'ai même pas encore commencé le message. Nous sommes simplement dans l'introduction. Au fait, c'est la partie débutante maintenant. Je suis juste venu d'une partie où j'ai dit, la femme de Lot a regardé en arrière et j'ai vu Hébreux 6 et Hébreux 10, 26 à 31. Et je vais maintenant à 2 Pierre chapitre 2. Verset 19, et je vais maintenant entrer dans le message, afin que vous puissiez comprendre le synonyme de ce que Dieu disait, 2 Pierre chapitre 2. Est-ce que vous êtes là avec moi maintenant? Comprenez-vous maintenant la gravité pour laquelle j'ai dit que j'ai besoin de parler à l'Église mondialement? Personne ne m'a répondu encore. 2 Pierre, le chapitre 2, versets 19 à 22, en train d'avertir sur l'abus de la grâce. La femme de Lot a été sauvée. Elle a été rachetée du feu. Elle a été sortie du portail de l'enfer, en dehors de l'enfer. Le salut, Jésus vous sauve. L'Allemagne, il vous a sauvé de quoi? Du lac de feu. Parce qu'elle a été retirée et prise en dehors du lac de feu. Mais lorsqu'elle a regardé en arrière, elle est retournée dans le lac de feu. Vous ne pouvez pas faire ce que l'Église du jour présent est en train de faire et retourner, terminer dans le lac de feu. Je vais bien placer cela. Est-ce que je peux le dire mieux? Il dit, vous ne pouvez pas prendre le salut de Jésus et vivre comme les non-nés de nouveau et espérer terminer dans les cieux, n'est-ce pas? C'est puissant. Vous ne pouvez pas prendre le salut de la croix, payer aussi fortement pour vous et vivre comme les antichrists, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus est entré dans le royaume de Dieu. Je peux vous le donner gratuitement. Allez à la banque. Vous ne pouvez pas entrer dans les cieux comme cela. Vous ne pouvez pas prendre le salut de la grâce que Jésus a payé aussi fortement comme ceci. Puis, choisis de vivre une vie comme ceux qui ne sont pas nés de nouveau et entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que l'Église du jour présent est en train de faire, pensant qu'ils vont entrer. Numéro 2, vous ne pouvez pas prendre le salut de la croix et du sang de Jésus, le salut de la grâce payé aussi fortement. Et je suis allé avertir l'équipe de diffusion. Vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas prendre le salut de Jésus, le salut de la grâce, payer aussi fortement comme ceci, puis regardez ceci maintenant tout le monde, et choisir de vivre comme ceux qui haïssent Jésus, comme ceux qui haïssent Jésus. Je pense que maintenant nous avons atteint un point de la conversation, nous avons commencé à établir la conversation. Encore, je répète ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, rappelle-leur la femme de Lot, ceux qui regardent derrière. Ils ont été sauvés, nés de nouveau, et en regardant en arrière. Après que vous ayez lu, regardez la focalisation, il dit que vous ne pouvez pas prendre le salut de Jésus, payer aussi fortement comme cela, comme les choses de cette terre. Vous êtes choqués juste un moment, c'est incroyable le prix que Jésus a payé, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas prendre le salut, payer aussi fortement comme cela par Dieu lui-même, puis vivre comme ceux qui n'ont pas connu Jésus. et entrer dans les cieux. C'est ce que l'Église du jour présent est en train de tenter de faire. Vous comprenez pourquoi je suis venu à vous? Vous comprenez la tragédie maintenant. Ceci est sérieux. Numéro 2, j'ai dit, vous ne pouvez pas prendre le salut de la croix et du sang de Jésus, payer aussi hautement comme cela, et choisir de vivre comme ceux qui haïssent Jésus. Ceux qui ne l'ont pas connu, ils l'ont haï. Et vous, entrez dans le ciel. Est-ce que nous commençons maintenant à parler aujourd'hui? C'est ce qu'il veut dire. Par souvenez-vous de la femme de Lot. C'est pourquoi j'ai dit au commencement de ce message que quand j'apporte ce message à vous, le but numéro un, c'est d'être capable de vous secouer, vous réveiller afin que vous puissiez prendre votre salut chrétien plus au sérieux. L'objectif est que vous puissiez maintenant prendre la sainteté de Dieu plus sérieux maintenant. L'objectif est que vous preniez la grâce de Dieu plus sérieuse maintenant, avec révérence, avec crainte et tremblement. Que vous ne puissiez jamais prendre cela pour acquis et abuser la manière dont l'Église du jour présent dans un monde moderne est en train de faire au Kenya, ils l'ont abusé. Ils pensent que vous pouvez prendre le salut de Jésus, payer aussi fortement et vivre comme des personnes qui ne sont pas nées de nouveau et penser que vous allez entrer dans les cieux, mon Seigneur. Vous ne pouvez pas. C'est maintenant un réveil sérieux. Et c'est pourquoi j'ai dit dans l'introduction maintenant, ça c'est une introduction. La première partie c'était le préambule. Et maintenant vous pouvez dire comment est-ce que le message est lourd. C'est maintenant sérieux. Et il dit, le premier avertissement que je vous ai donné c'était Hébreux 6, versets 4 à 6, n'est-ce pas? Regardez en arrière comme Madame Lot, n'est-ce pas? Et le deuxième exemple que j'ai donné c'est Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31, n'est-ce pas? Et je vous ai donné le troisième, 2 Pierre, chapitre 2, versets 19 à 22. Et là, ça devient plus brutal. Il dit que le lieu où votre fille, vous avez donné vos filles à plus de 1000 hommes pour les abuser de la manière dont ils veulent. Vous avez retiré vos filles vierges et vous dites, vous les avez données à ces hommes pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Le chien est retourné à son vomi encore. C'est incroyable. 2 Pierre, chapitre 2, 19 à 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19 à 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19 à 22. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Et car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. L'autre version dit que leur condition finale est pire que le commencement. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavait ses vautrés dans le bourbier. Pouvez-vous imaginer cela? Lorsqu'il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot », ceci est sérieux. Nous prenons donc une courte pause. Et lorsqu'on reviendra, je vais maintenant commencer le message car j'ai établi une introduction. Ceci est sérieux. Le Seigneur vous bénisse. Toda Rabba. Toda Averim. Vous espérez que tout le monde, chacun, a une responsabilité personnelle. Et c'est en d'autres mots le salut de la grâce de Dieu. Une fois que vous le recevez, seulement le Seigneur peut vous sauver sur votre obéissance volontaire personnelle. Vous ne pouvez pas dire que je dépends de l'obéissance volontaire de ma femme, de mon mari ou quoi encore. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, regardez maintenant, ils marchaient en train de partir. L'homme, le mari, Lot, n'avait pas du temps pour vérifier si elle était en train de suivre. Parce que si il avait vérifié, cela aurait montré que Lot était en train de regarder en arrière et il ne voulait pas faire cela. Il ne veut pas essayer cette chose. Il ne peut même pas regarder si sa dernière fille est sortie ou pas. Il n'y a pas de privilège, il n'y a pas d'opportunité parce que l'ordre a été donné. Et tout le monde a entendu cela si bien, c'est une loi exaltante que vous pouvez manger tous les fruits de l'arbre de vie, mais vous pouvez manger tous les fruits du jardin, mais vous ne pouvez pas toucher ce fruit, car si vous le touchez, vous allez certainement mourir. Tout le monde a entendu que Dieu a sa loi qui n'est pas négociable. Et nous savons si bien que Dieu n'est pas dans les affaires de plaisanter. Il est très sérieux sur la rédemption. Donc regardez maintenant, Lot est en train de marcher. Et donc, il pourrait être en train de les conduire. Et pendant que Lot est en train de partir, la femme regarde en arrière et instantanément, elle est frappée. Le jugement de Dieu vient au moment où vous ne vous y attendez pas. Donc, pendant qu'elle regarde derrière, cela décrit ce qui suit. Numéro 1, la désobéissance. Numéro 2, déshonorer Dieu. Numéro 3, ne pas croire à Dieu. Numéro 4, l'apostasie. Il y a beaucoup qu'on peut partager sur ceci. Le fait de regarder en arrière. Mais le plus important, ce que je voudrais traiter est ceci. En tant qu'une priorité, le Seigneur est simplement en train de dire, regardez, lorsque nous regardons le livre de Luc, chapitre 17, que le Seigneur est en train d'utiliser pour lancer la femme de Lot, son nom n'est pas écrit dans la Bible, après que toute chose soit arrivée dans le livre de Genèse, la Bible n'a jamais parlé d'elle encore, jusqu'à ce que Jésus, maintenant, vient parler d'elle dans le Nouveau Testament. Donc regardez ceci. Si vous regardez ce domaine, cette écriture dans lequel elle est mentionnée, il dit la venue, le royaume à venir de Dieu. Ça, c'est le sous-titre là. Mais lorsque vous descendez, vous l'entendez en train de décrire un jour, qu'il y a un jour qui arrive. Le jour du jugement de Dieu arrive. C'est ce dont cette écriture parle, qu'il y a un jour de jugement qui arrive à la terre. Et le Seigneur est en train de dire que ceux qui n'obéiront pas à l'instruction de Dieu, ils seront balayés par le jugement de Dieu qui ne peut être échappé. Et Dieu Tout-Puissant est en train de mettre l'accent sur le fait qu'il y a un jour qui arrive où Dieu va juger la terre. Parce que la femme de Lot, en regardant en arrière, elle a perdu. Et c'est pourquoi j'ai commencé par lire Sophonie, là où maintenant vous pouvez dire qu'elle n'a pas cru que Dieu allait juger, sinon elle n'allait pas regarder en arrière. Est-ce que nous sommes maintenant ensemble? Et il semble que cela ressemble plus à une église que je connais. Dans ce siècle qui est aussi complaisante et qui se comporte comme si elle n'est pas en train de croire. Mais le jugement de Dieu arrive. Le coronavirus était simplement une petite fenêtre pour vous donner un aperçu à la colère qui arrive, le jugement insupportable qui arrive. Ils vivent comme s'ils ne croyaient pas que le jugement de Dieu arrive. Alléluia. Ceci est sérieux. Très sérieux. Le jugement de Dieu arrive. très très clair ici. Dieu est en train de mettre l'accent sur le fait qu'il y a un jour du jugement de Dieu qui arrive. Et que ceux qui ne se complaisent pas, qui n'obéissent pas, ceux qui ne se conforment pas et qui n'obéissent pas aux instructions et à l'ordre de Dieu, ceux qui expriment une volonté propre, dit « j'ai ma volonté personnelle », Dieu a envoyé ses serviteurs dire que le Messie arrive, on a besoin de se repentir, il a vu le Messie venir, il a vu l'Église de Dieu prise, il a vu la nuée de Dieu, il a appelé la nuée de Dieu pour venir donner évidence et preuve que Dieu arrive dans les cieux, il a élevé nos paralytiques, ouvert les yeux aveugles, ouvert des oreilles sourdes, les lunatiques ont été guéris, la mort, la lèpre, comme des preuves. Et toutes ces choses indexent une chose, comme preuve que oui, en effet, il est vrai qu'il y a un jour qui arrive où Dieu va véritablement juger le péché. Mais vous pouvez voir très clairement que la femme de Lot n'a pas cru que Dieu juge le péché. Ou que Dieu, parce qu'il n'a pas jugé pendant un long moment. Et donc, éventuellement, il n'a pas cru qu'il allait juger. C'est pourquoi j'ai lu Sophonie au sujet de la complaisance qui arrivait à Sophonie, où ils ont dit que qu'on fasse bon ou mauvais, Dieu n'a jamais fait, il n'a rien fait pendant un long moment. Ainsi, il ne le fera pas. Donc, cette génération aussi, si vous allez dans les rues et leur demandez, juste, il faut faire une investigation. Est-ce que vous croyez que Dieu juge le péché? Il pourrait même vous dire, non, pour moi, je ne crois pas que Dieu juge le péché. Je paye mes taxes. Je ne suis pas un criminel. Pourquoi est-ce qu'il va me punir et m'envoyer en prison? Moi, je donne de l'argent à la Croix-Rouge. Ils vont vous donner toutes sortes de justifications pour dire que Dieu ne le juge pas. Donc, ils ne croient même pas que Dieu juge le péché. Mais le Seigneur est en train de dire qu'un jour arrivera, lorsqu'il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot », il est essentiellement en train de dire qu'un jour arrivera où ceux qui vont échouer d'entrer au ciel, ce qui veut dire ceux qui n'auront pas obéi et qui ne se seront pas soumis et qui n'auront pas pris la sainteté comme un style de vie, lorsqu'ils seront finalement jugés et balayés, et ce sera irréversible. En d'autres mots, tout le monde, focalisez-vous sur ceci. Quand nous commençons ceci, il est en train de dire, le Seigneur est en train d'utiliser, souvenez-vous de la femme de Lot, quelqu'un qui n'est pas entré, il est en train d'utiliser cette écriture, cet exemple de la femme de Lot pour établir, mettre en avant les dangers, des obstacles dans vos vies qui pourraient vous empêcher d'entrer dans les cieux. Les choses dans vos vies qui pourraient vous emmener à regarder en arrière. Pour commencer à regarder en arrière au monde, à votre vie pécheresse que vous avez ici. Ça, c'est quelque chose de sérieux du Seigneur, un avertissement. Qu'il y a un danger de certaines choses dans vos vies, la plaisanterie, le jeu avec votre éternité. Pour la femme de Lot, c'était la vie dans son palais. Peut-être même c'était ses beaux-fils, les maris de ses femmes, de ses filles qui avaient de grandes maisons. Et elle dit, oh, je perds tout ceci. Et cela l'a emmené à regarder derrière. Et l'Éternel dit qu'il utilise cela pour même vous examiner votre vie et vérifier, mais quelle est cette chose dans votre vie en tant qu'un chrétien qui est plaisanterie et qui est en train de vous emmener à perdre votre éternité dans le royaume de Dieu, qui vous retient à regarder en arrière au monde pécheur, là où vous êtes. Et donc, c'est le voyage par lequel je voudrais passer. Je suis sûr, éventuellement, regardez ceci maintenant. Je suis sûr, si vous êtes avec moi, les choses qui sont en train de passer dans vos pensées maintenant, c'est l'Éternel a préparé un banquet. Il a envoyé les gens pour inviter les gens au banquet et dit, oh non! Non, j'ai marié une jeune fille. Non, j'ai marié un voleur. Qu'est-ce qui est dans votre vie qui vous emmènerait à ne pas rentrer dans la gloire? Quelle est cette chose qui vous emmène à vous focaliser sur le monde? Nous savons tous Matthieu chapitre 22. Ce sont les choses que si vous êtes véritablement chrétien et un évêque que vous êtes ici, ce sont les choses qui pourraient être en train de passer dans vos têtes maintenant. Oh, wow, maintenant je comprends ce que le Seigneur est en train de dire. Il nous parle même de Matthieu chapitre 22 où il a préparé un banquet et il voulait que les gens puissent rentrer au ciel. Mais il y a certaines choses qui les a empêchées d'entrer dans le ciel. Il n'a pas marié une nouvelle femme. Il a juste acheté un nouveau champ. Il y a des choses qui pourraient vous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu et qui pourraient vous retenir dans le monde. Et le diable les utilise comme des marques. Alléluia. Est-ce que nous sommes maintenant en train de commencer à parler sérieusement? Le Seigneur est en train de dire, examinez-vous. Examinez-vous et demandez-vous, quelle est cette chose dans ma vie qui est en train de me retenir en arrière? Qui m'emmène à regarder derrière? Parce que dans Matthieu 22, avant qu'on ne lise, le banquet est préparé à l'intérieur du royaume de Dieu. Dieu le Père les envoie. Va dire à ceux pour qui cela a été préparé. Il y a des personnes pour qui c'est préparé, pour lesquelles c'est préparé. Dis-leur que les boissons sont douces, les tables sont prêtes, tout est prêt. Dis-leur de venir. Mais ils disent non. J'ai juste marié une jeune fille, je ne peux pas venir. Et maintenant, vous pouvez voir certaines choses qui pourraient vous empêcher. Parce que la Bible dit, certains seront en train de se marier et en train de donner leur fille en mariage. Un autre dit, j'ai déjà acheté un nouveau champ, je dois aller semer. Un autre dit, j'ai déjà acheté une vache. Immédiatement, vous pouvez comprendre ce que Dieu Tout-Puissant est en train de dire quand il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Les choses qui l'ont empêché d'entrer dans le ciel devraient être au portail. Elle a été retirée du lac de feu et elle est retournée dans le lac de feu. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Que si vous regardez l'Église du jour présent, oui, en effet, il est vrai que Dieu est justifié, le Seigneur est justifié pour être capable. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie de l'Église du jour présent qui a retenu son cœur aux choses du monde. Alléluia. Et même en tant qu'un individuel, un vase, en tant qu'un croyant seul, dans cela, lorsque vous n'avez pas de couronne, vous n'avez pas votre femme, vos enfants, vous êtes seul maintenant, vous devriez être capable de vous interroger. Parce que les questions de l'éternité sont éternelles. Vous ne voulez pas faire une erreur au sujet de cela, vous devriez vous demander, qu'est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire en vous que vous pensez qu'il pourrait jouer avec votre éternité dans le royaume de Dieu? Alléluia, c'est de là où je voudrais commencer, peuple béni, et il dit ici, c'est un jour très puissant, Apocalypse. Je suis juste en train de partir avec vous. Nous sommes en train d'entrer dans un jogging. Un petit jogging. En train de se réjouir du battement du cœur, en train de regarder la circulation du sang. Nous sommes maintenant en train de faire du sport. Apocalypse chapitre 3. Quelles sont les choses que le Seigneur est en train d'élever? Quel est le message sur lequel il met l'accent lorsqu'il dit « Souvenez-vous de Madame Lot ». Et même dans ce ministère de repentance, il y a des gens qui ont vu la nuée. Vous avez vu la gloire de Dieu. Vous avez vu les paralytiques en train de marcher. Vous savez que rien n'est jamais arrivé comme ceci dans l'histoire de l'Église. En train d'ordonner à partir du Brésil, les yeux ouverts à Kiricho, les paralytiques en train de marcher et toutes ces choses en train d'ordonner à partir du Kenya et un sénateur en Finlande se met debout et marche au Brésil. Une main qui était penchée est étirée. Et même dans ce ministère, il y a des gens qui ont vu toutes ces choses et qui sont entrés où? Ils disent, oh non, je veux tomber et faire mes propres choses, rechercher une autre église et me soumettre là-bas en tant qu'une brebis. Le Seigneur est en train de dire que ce que la femme de Lot a fait, marcher avec Dieu, étant touchée par la main et, fait, et elle a été sorti par le portail. C'est la même chose que Judas Iscariote a fait. Marcher avec Jésus et même en train de garder les finances et à la fin, très loin de Jésus. Et a perdu son âme. Comment voulez-vous marcher avec la nuée de Dieu et vous devenez une âme perdue? La nuée n'est pas venue depuis l'Ancien Testament. La pluie. Juste prenez quelque chose qui devrait être capable de vous toucher, vous transformer, vous pousser au royaume de Dieu. Et même juste les paralytiques. Même juste la visitation à Rio de Janeiro. 14 personnes aveugles sont venues, 14 personnes ont été guéries. 100%. Et même cela seul, cela devrait vous emmener à prendre votre salut plus au sérieux, votre sainteté plus au sérieux, votre justice plus au sérieux, la question du royaume de Dieu plus au sérieux, et vous veillez à votre salut. Il y a beaucoup de personnes maintenant dans ce ministère qui marchent comme ceci, mais probablement ils ont regardé en arrière. Ils ont regardé en arrière. C'est plus dangereux de cette manière parce que vous pensez que vous êtes en train d'avancer comme un groupe. Non, pas du tout. C'est pourquoi je suis en train de dire que vous avez besoin de vous examiner en tant qu'une personne seule, dans votre chambre seule. Laissez votre femme seule, laissez vos enfants seuls et demandez-vous, suis-je en train de marcher droit avec le Seigneur? Et même en tant qu'un pasteur, suis-je fidèle au Seigneur? Parce que les questions de l'éternité ne sont pas un jeu. Et donc, le Seigneur est simplement en train de dire que Judas Iscariote a marché très proche avec Jésus. Si proche. Mais à la fin, il a perdu son âme dans le lac éternel de feu. Pendant combien de temps? 35 pièces. 30 pièces. L'argent. Les choses matérielles de ce monde, le fait de regarder en arrière. Et c'est pourquoi je veux qu'on parte dans ce voyage étape par étape pour vous emmener à une interrogation personnelle, à une audite personnelle. Parce que au lieu d'une église de groupe, on a besoin de par moments s'arrêter un peu. Les gens s'examinent individuellement parce que vous serez debout seul. Groupe, 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 oh notre ministère. Non, non, pas du tout. Pas notre prophète. Regardez, les nations sont ici. Ils ont aussi besoin d'entendre cette annonce. Donc, il n'y a pas de règle que vous allez apparaître devant le Seigneur en tant qu'un groupe, pas du tout. Il y a des gens maintenant dans ce ministère entre le marché. Ils ont regardé en arrière. Aujourd'hui, c'est le moment du réveil. Je suis en train de parler d'une audite personnelle pour que vous puissiez entrer, oublier vos filles, vos enfants, vos amis, examinez-vous, demandez-vous, suis-je véritablement en train de marcher droit avec Dieu? Donc, pouvons-nous commencer étape par étape et voir ce que le Seigneur est en train de transmettre comme message quand il dit Luc 17, 32, il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, nous lisons ensemble verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce qui suit. Verset 15 jusqu'à 20, il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant ». Vous comprenez maintenant? La femme de Lot s'est assise là, elle a entendu le message des cieux directement, lui, qui lui a été transmis par les messagers de Yahweh. Les glorieux messagers, ils sont si glorieux lorsqu'ils sont apparus devant Abraham. Et Lot, pour commencer, lorsque Abraham a commencé à construire l'autel pour le Seigneur, Lot est en train de... Il était occupé en train de vivre à Sodome et Gomorre. Pendant que Abraham était occupé en train d'avoir une conversation riche avec le Seigneur. Sommes-nous ensemble? Puis il dit ici très clairement que la femme de Lot, son nom n'est pas donné. C'est un symbole, la représentation de l'église tiède que vous voyez aujourd'hui. Ils ne sont ni chauds ni froids. Soyez très prudents si vous êtes un pasteur ou un évêque et que vous n'êtes pas en train d'appeler à la radio. Le directeur de la radio, Jésus est Seigneur, est assis ici. Soyez très prudents si vous êtes dans ce ministère et que vous savez très bien que cette radio est la bouche de Dieu, est la chaîne de Dieu que Dieu est en train d'utiliser pour parler les prophéties sur Israël, les prophéties en Ukraine, le coronavirus, annonçant la venue du Messie, en train de lever les paralytiques de là. 87 stades, quand vous avez entendu, vous savez que cette radio est la chaîne ouverte de Dieu en train de parler aux nations, préparant les nations pour la venue du Messie. Soyez très prudents lorsque vous êtes ce type de personne qui n'essaie même pas d'appeler à la radio. Est-ce que nous sommes en train de parler ensemble? Alors vous avez un problème. Nous sommes en train de parler de la chrétienté tiède. Au moins, vous pouvez dire, j'ai essayé de le faire, c'était si occupé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé, vous pouvez voir mon désir. Je veux que tout le monde sache que j'essaie d'appeler à la radio. Je veux juste que ma voix apparaisse là un jour. Je ne sais pas ce que ça va me faire. Mais pour moi, c'est pour mon éternité. Je veux juste être à la radio. Et c'est là où la voix de Dieu est en train de parler. Soyez prudents avec la chrétienté tiède. Vous pouvez dire que la femme de Lot n'a pas cru aux anges. Elle était tiède. Elle n'a pas cru aux anges. Lorsqu'ils ont dit toutes ces maisons palacieuses, elles toutes seront détruites. Elle n'a pas cru aux anges. Vous pouvez dire que la femme de Lot, à cause de ce type de ne pas croire et de tiédeur, son cœur était dans le monde. Vous pouvez dire cela. Et donc c'est pourquoi il dit, il avertit ici, je connais tes œuvres, que tu n'es ni chaud ni froid. Je préfère un chrétien, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, et l'évangile vient frapper leur cœur, ils deviennent nés de nouveau, ils sont en feu. Je préfère celui-là, et ils ont le feu, et ils entrent les cieux, que quelqu'un qui reçoit le Seigneur, qui devient tiède, et qui devient un résistant sous l'art. Donc, l'évangile n'est plus capable d'avoir assez d'efficacité pour leur résister. Donc, ils ont un évangile, de sorte que ça ne peut pas leur résister et ils terminent dans le lac de feu, c'est terrible. Soyez très prudents si vous êtes dans ce ministère et vous n'êtes pas en train d'essayer d'appeler à la radio, où le feu de Dieu est en train de souffler, quel que soit ce que c'est le nom. Alléluia. Où les flammes sont devenues un feu éclatant, et c'est pourquoi j'ai dit que ce message est pour vous les individuels. Ce n'est plus au sujet d'un groupe, ce n'est plus au sujet du ministère. Parce que vous ne lui avez pas permis à lui ou à elle de prendre pour manger leur cœur jeune. Quel type de personne que nous avons fait, et quand ils grandissent, la rébellion, même dans l'église, la rébellion signifie qu'ils ne veulent pas se soumettre sous l'autorité de Dieu. Et c'est pourquoi ils terminent en disant, moi je ne crois pas qu'il y a un Dieu. Non, ils croient, mais ils ne veulent pas se soumettre. Ils ne veulent pas que quelqu'un le contrôle. Est-ce que vous avez compris lorsqu'il a dit, souvenez-vous de la femme de Lot? Est-ce que vous êtes maintenant en train de commencer à comprendre cela bien? Ceci est sérieux, mon fils Timothée. Ceci est maintenant sérieux. Lorsqu'il dit, souvenez-vous de la femme de Lot, il a dû beaucoup, j'ai dit la profondeur, on n'a même pas encore commencé, on n'a pas encore débuté. Cela est assez sérieux. C'est un grand, grand souci, n'est-ce pas? Et il dit, le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, verset 9, est-ce qu'on lit ensemble? Ceci est très sérieux. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6. Jésus dit pardon, il faut mentionner mon nom, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 6, verset 9. Ésaïe chapitre 6, verset 9, il dit ce qui suit. Il dit, alors va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Quel type de génération est-ce que nous avons aujourd'hui? Ils entendent la parole. Ils vont à l'église au quotidien. Par moment, la gloire de la journée avant d'entrer au travail, la gloire de la journée, lorsqu'ils entrent dans l'église, vous voyez que toute chose est rangée. L'église, ils disent, ils ont une heure d'adoration. Lorsque vous regardez, tout est bien arrangé. L'église est en top, mais quand vous entrez là, vous les entendez en train d'adorer, la manière dont les gens adorent la Bible qu'ils lisent et la prédication. Et vous pensez que l'Église va à la normale. Mais c'est même que Timothée, chapitre 3, verset 5, avoir une religion formelle, mais manquant ce qui en fait la force, une autre religion. Ça devient totalement une autre religion, le bouddhisme, l'hindou. Si vous pouvez avoir la grâce de Jésus sans la sainteté, ça devient totalement une autre religion, plus pire que le bouddhiste, plus pire que l'hindou, plus pire. Quand vous regardez les chrétiens dans l'église, les femmes, elles s'habillent nues. Mais les hindous et les musulmans s'habillent saints. Alors que c'est plus pire que l'adoration des idoles. Et l'Église semble normale, elle a une croix, la Bible est placée, l'équipe d'adoration là, ils sont en train de chanter. Mais lorsque vous examinez très prudemment ces personnes, lorsqu'ils retournent à la maison, ils sont en train de fumer, ils sont en train de boire l'alcool. Par moments, vous trouvez qu'après avoir adoré, lorsque l'annonce est en train d'être donnée, il y a une porte. Ils sortent par la porte et dehors, ils sont occupés en train de boire. Il dit, quiconque entend et ne comprend pas. Il dit, vous verrez, mais vous ne percevez point. Quand il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Est-ce que nous sommes maintenant en train de commencer à marcher ensemble? Ce sont des questions sérieuses. Très sérieuses. Philippiens chapitre 3, 13 à 14. J'ai besoin d'avancer parce que le temps n'est pas de mon côté. Philippiens, on y va, on n'a pas assez de temps, peuple béni. Philippiens chapitre 3, 13 à 14, il dit ce qui suit. 13 à 14, il dit, une fois que vous êtes là, on va lire. Frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Avez-vous entendu cette parole? La vocation céleste en Jésus-Christ. Pour être focalisé sur les cieux, ne jamais regarder en arrière. J'ai décidé de suivre Jésus. Ne pas retourner en arrière. La croix devant moi. Et non pas derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Je ne retourne pas en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et même le chant dit, ne pas retourner en arrière. Pourquoi est-ce que cette génération s'est retournée? Il dit, J'ai mis devant vous la récompense céleste. Abandonnez ce qui est derrière vous. Abandonnez vos péchés, car Dieu a déjà préparé pour vous. Continuez d'avancer. Le diable va essayer de vous flasher. Par moment, vous avancez. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, jamais vous ne devriez vous rappeler de la richesse que vous aviez, ces choses que vous aviez, pas du tout. En train d'avancer, abandonnons ce qui est derrière. Le mortel, la mentalité du salut chrétien, alléluia. Et il dit que cette génération, dans le livre de Luc 22, lorsque vous lisez là, le message est incroyable. Il dit, j'ai acheté un nouveau champ, je me suis juste marié, j'ai acheté un veau. Ceci est sérieux. Le livre de Matthieu 22, il dit ce qui suit, qu'il a juste acheté en vous les choses du monde. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Je vous ai dit qu'il y a la profondeur du message. Que ça, c'est le message qui vous réveille véritablement et qui vous emmène à vérifier à vous-même, vous poser des questions et commencer à résoudre de suivre Jésus. Et rien ne changera ma vie. En termes de me faire regarder en arrière, je suis juste focalisé sur l'avant. Et ceci est très puissant, n'est-ce pas? Parce que nous buvons de l'éternité. Luc chapitre 22. Matthieu 22. Jésus prenant la parole parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Ça, c'est Dieu le Père en train de préparer pour son fils Jésus. Je me souviens un moment lorsque le Seigneur est en train de parler, il est venu me parler. Lorsqu'il a fini la conversation, il a fini en disant « Un père aime son fils véritablement. » Ceci est sérieux. On va acclamer l'Éternel. Le père aime le fils énormément. Et c'est pourquoi nous sommes envoyés pour préparer le chemin pour le roi. C'est pourquoi son glorieux trône sera établi. Alléluia. Et c'est pourquoi vous êtes ici, parce qu'il est mort pour vous et vous a sauvé. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes le fruit de sa parole, n'est-ce pas? Et donc très très puissamment, il dit ici encore que Jésus leur a parlé en parabole, il dit le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Ils ne peuvent pas venir, ils ont dit, parce qu'ils sont occupés, n'est-ce pas? Ceci est sérieux. Jésus a acheté un champ. Je viens juste d'acheter des veaux. J'ai juste marié une jeune femme. Matthieu 24, juste là. Versets 36 à 39. 36 à 39, il dit ce qui suit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Parce que seul le Père sait la proximité. Vous pouvez voir. Ce jour-là, je vais danser devant le Seigneur. J'espère que ce n'est pas votre hôtel. Ceux qui vont rester, je leur dirai, je vous avais dit que mon roi revient. Certains qui ont juste joué. Vous ne pouvez pas jouer. Vous ne pouvez pas jouer. Juste jouer, je le vois en train de courir. S'il vous plaît. Est stupéfiant que le Seigneur peut me montrer cela. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 42. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. L'imminence de ce jour. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot, est en train de lever. Il dit, ça sera soudain. Et l'évidence est partout. C'est partout. Tout le monde devrait sortir du bar, des bars. Les évidences sont partout. Les discothèques, les bars, partout. Les évidences sont très claires. Et donc, il est en train de dire ce qui suit. Que la distraction par ce monde peut choquer le monde et l'éternité que Dieu a placée devant vous peut étrangler le monde lui-même et l'éternité que Dieu a placée devant vous. Et il est en train de dire que Jésus a élevé un avertissement sérieux sur le fait de veiller. Cela est sérieux sur la veille. Veillez que la distraction de ce monde ne retire pas votre éternité dans le royaume de Dieu. J'ai juste acheté un champ. Je viens de faire ceci, je viens de faire cela. Et ce jugement que je vais couvrir, afin que vous puissiez comprendre ce jugement dont cette écriture parle. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle a été frappée avec le jugement de Dieu. Ce qui veut dire que ce jour de jugement arrive. On va couvrir. On va juste voir quelque chose que nous avons vu jusqu'à maintenant. Souvenez-vous de la femme de Lot. Jésus élève un avertissement aux chrétiens utilisant la femme de Lot, n'est-ce pas? Et Jésus élève un drapeau rouge. Que la femme de Lot devrait être un monument sur la rébellion, les dangers de la rébellion. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le Seigneur Jésus, il est essentiellement en train de parler de son retour. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Le retour du Christ. Dans cette énorme conversation, souvenez-vous de la femme de Lot. Le Seigneur est essentiellement en train de parler de son retour et il parle du jour du jugement qui arrive. Et le Seigneur est en train de lever cet avertissement très rouge, ce drapeau très rouge à l'Église, que ce sera mortel de ne pas être trouvé prêt. Donc, il est essentiellement en train d'avertir une église qui ne sera pas prête en ce jour, qui ne sera pas trouvée prête en ce jour. Cela est sérieux. Il est en train de lever un avertissement sérieux sur le fait d'être prêt et une église qui ne sera pas trouvée prête en ce jour. Le Seigneur est en train d'avertir sur la chrétienté tiède, qu'il y a des chrétiens qui vont marcher avec vous dans le ministère de repentance et sainteté. Nous sommes saints, nous sommes repentis alors qu'ils sont tièdes. Ça, c'est une tragédie. La nuit est venue, n'est-ce pas? Ne faites pas cela. Toute chose est ici pour faciliter votre entrée. Vous voyez maintenant, il y a beaucoup de nations, Taïwan, Chine, Malaisie, Macao, les îles, ici, assez de visitations, tout cela pour faciliter leurs âmes. Pourquoi est-ce que vous allez prendre tous ces investissements des cieux et échouer d'entrer? Donc examinez-vous. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur est en train de dire qu'il y a des gens qui vont parler au sujet de leur salut, qui sont en train de marcher avec vous, avec éloquence. Et vous allez voir après qu'ils étaient superficiels, juste pour vous choquer. Ils n'étaient pas véritablement transformés par le Seigneur. Et leur cœur n'était pas régénéré. Nous parlons de la régénération du cœur ici, ceci est sérieux. Le Seigneur est en train de dire que la femme de Lot avait le privilège de communier avec les anges. Et ils lui ont parlé sur le message, l'instruction. Mais encore, elle a terminé en enfer. Maintenant, regardez ceci, que tout le monde se focalise sur moi. À ce moment, le monde était très, très rare. La parole de Dieu était localisée sur quelques spécifications, Abraham, Lot, les anges, assez de personnes n'avaient pas la parole de Dieu. Mais cette femme, elle a d'abord sa lignée. Si vous regardez, Lot, c'est le neveu d'Abraham, un homme saint, un homme qui craint Dieu, et numéro 2. Dans cette lignée, elle aurait appris la parole, la crainte de Dieu au sujet du Seigneur Yahweh, parce que vous voyez que le Seigneur l'a libéré. Et le Seigneur est en train de dire que pendant que la parole de Dieu était rare pour elle, il lui a été ministré par Dieu lui-même, les anges de Dieu eux-mêmes, à partir du trône de Dieu. La parole était rare, mais pour elle, les anges eux-mêmes lui ont ministré et ils ont attrapé sa main et ils l'ont tiré pour la faire sortir. Et elle a quand même manqué l'éternité. Et le Seigneur est en train de dire, regardez ceci maintenant, que si l'Église du jour présent joue aussi, Madame Lot devient comme la femme de Lot et se retourne, que si l'Église du jour présent échoue aussi d'entrer, alors la femme de Lot va élever un cas contre l'Église du jour présent. Pourquoi? Parce que la femme de Lot n'avait pas la Bible pour lire. La femme de Lot n'a pas vu un paralytique à marcher. Un paralytique à marcher, Jésus. Un paralytique à marcher. La femme de Lot n'a pas vu cela. La femme de Lot n'a pas vu les cieux en train d'être ordonnés de s'ouvrir. La femme de Lot ne s'est pas assise quelque part, quelqu'un est en train de prêcher dans une croisade. Un paralytique en train de marcher dans un service de guérison, mon Seigneur. Et si l'Église du jour présent se comporte comme Madame Lot et échoue d'entrer, la femme de Lot va établir un cas contre vous. Premièrement, nous avons vu les avantages que la femme de Lot avait comparé aux gens de ce temps. La parole de Dieu était rare. C'était sur quelques personnes spécifiques, Abraham, mais on a vu qu'elle n'a pas d'excuse parce qu'elle a eu une lignée avec Abraham au travers de son mari. Et encore, elle a communié avec les anges. Elle s'est assise avec eux. Elle leur a servi à manger. Elle a entendu l'instruction et même ils l'ont tirée pour la faire sortir dehors avec sa famille. Alors comment est-ce que vous justifiez le fait qu'elle n'est quand même pas entrée dans les cieux? Et le Seigneur est en train de dire, regardez ce danger maintenant, que pour vous maintenant, Jésus est venu et a ministré dans vos cœurs. Le Saint-Esprit est venu et est entré dans vos cœurs. Puis la nuée de Dieu est venue et vous a ministré. Vous avez adoré Akisumu sous la nuée, Kericho, Kisi, sous la nuée, Kapkaket, sous la nuée, Kisumu sous la nuée. La nuée m'a couvert au parc central, donc la nuée était là. Vous avez adoré sous la nuée là. Vous avez regardé les paralytiques en train de marcher. Vous avez dansé et célébré les paralytiques en train de marcher. Vous avez dansé et célébré que les yeux aveugles, même aujourd'hui, j'appelle cela aujourd'hui parce que nous sommes toujours en train de célébrer aujourd'hui à Kericho, célébrer des yeux aveugles. Vous avez célébré des oreilles sourdes ouvertes, les merveilles des neutrons. Vous avez entendu des prophéties en train d'être données et elles se sont accomplies. Le Seigneur est en train de dire, quelle excuse est-ce que vous allez avoir pour être comme Madame Lot? Quelle excuse est-ce que cette génération a pour manquer d'entrer au ciel? La femme de Lot va donc élever un cas sérieux contre vous. Jésus est en train de parler ici du jugement de Dieu. Le dernier jugement qui va consumer ceux qui seront trouvés pas prêts. Et Jésus élève un drapeau rouge que tout le monde qui sera rebelle à la voix de Dieu sera jugé dans le lac de feu. Que tout le monde qui sera rebelle à la voix de Dieu sera jugé au lac de feu. Pourquoi? Parce que si vous allez dans le livre de Luc chapitre 16, il dit ce qui suit, Luc chapitre 16. Dans Luc 16, il dit, quand on lit verset 24 peut-être, verset 19, on va voir verset 24 d'abord. Verset 24, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. » Il est en train de pleurer pour la pitié. Et si vous regardez la réponse qu'Abraham lui a donnée, il n'y a pas de pitié en enfer. Sa demande a été rejetée. Il n'y a pas de demande de prière de l'enfer qui sont honorées par Dieu. Seulement, maintenant que vous priez, vous pouvez prier ici et Dieu va répondre. Aie pitié de moi, il n'y a pas de pitié pour le peuple en enfer. Et si vous écoutez la réponse, il dit non. Je ne peux pas envoyer quelqu'un ici ressuscité pour envoyer à vos enfants, car les prophètes de Dieu ont déjà opéré en Baal. Ils ont opéré dans les merveilles, et en puissance, et en miracle, et en mystère. Ils ont été doublés. Ils ont appelé Dieu le Père lui-même en Baal, le Père. Ils ont appelé les cieux, ils ont empêché des milliers de mourir dans la sécheresse. Ils ont ouvert les cieux, ils l'ont fait à Lagos, ils l'ont fait à Lima Perus, ils l'ont fait, ils ont dansé, les paralytiques sont en train de marcher. S'ils ne peuvent pas croire à la voix de Dieu en train de parler et appeler à la repentance, retourner à la sainteté, car le roi arrive, il dit « Oublie cela ». S'ils sont endormis là, alors ils ne sont pas des matériaux du ciel. Alors ils ne peuvent pas entrer. Il est en train de dire, c'est si mortel d'échouer à obéir à la voix du Seigneur. Dans ce cas, le Seigneur leur a envoyé des anges. Et Jésus leur a dit, on va écouter les prophètes. C'est vraiment incroyable, un peu béni. Il est en train d'avertir sur la rébellion ouverte que vous voyez dans l'église. Et le Seigneur Jésus est en train de dire que le salut de l'homme vient seulement de Dieu. Parce que vous voyez, une caractéristique principale, si vous regardez cette narration de la femme de Lot, Une image principale qui caractérise la femme de Lot, cette narration autour d'elle, c'est que dans son entourage, la manière dont elle est en train d'opérer là, la femme de Lot, elle a cette relation. Ils sont connectés très bien à Abraham, à la parole de Dieu, les anges sont là. Mais le Seigneur est en train d'avertir très sévèrement sur l'apostasie. Et si vous mentionnez l'apostasie, alors vous avez pris 99% de l'Église. Nous avons besoin d'avoir une trompette mondiale appelée toute l'Église, plus le Kenya, le ministère de repentance et sainteté. Toute l'Église à la repentance. Il est en train de parler de la valeur de la repentance pour transformer les cœurs. Que la repentance véritable est totalement différente de la repentance fausse. Alléluia, il parle de la repentance. Et il est en train de dire que l'épisode tout entier, sommes-nous toujours ensemble. La repentance, focalisez-vous sur moi. Il est en train de dire que si vous regardez l'épisode tout entier, avec la vue panoramique, l'épisode tout entier, alors vous trouvez une chose, que le salut ne vient pas comme leur initiative personnelle, pas du tout. C'est le Seigneur qui envoie le salut. Donc premièrement, direct là, le Seigneur est en train de dire, vous devez vous soumettre parce que le Seigneur est celui qui envoie les anges pour annoncer. Et même, regardez, ils n'étaient pas capables de pouvoir sortir. Ils étaient en train d'hésiter et quoi, en train de faire toutes ces choses. En d'autres mots, le Seigneur est en train de dire que l'homme n'a pas de capacité pour se libérer lui-même. Sommes-nous toujours ensemble? Que l'homme n'a pas de capacité pour se libérer lui-même, pour se libérer lui-même. À moins que le Seigneur fait un pas et vous libère, vous ne pouvez pas. Sommes-nous maintenant encore en train de comprendre, en train de marcher ensemble? Si vous regardez l'épisode tout entier autour de la femme de Lot et sa famille, les anges sont venus et ont apporté le salut. Ce sont les anges qui ont apporté le salut. Le Seigneur lui-même emmène le salut. Ça ne vient pas d'eux. Et même la capacité pour sortir et marcher en dehors du portail n'était pas possible. C'est encore les anges. Merci pour ceux qui sont en train d'écrire parce qu'un jour vous allez entrer au ciel. Ils ne font pas sortir. Ils doivent être exhortés et exhorter et fortifier, argumenter, s'il te plaît, ne fais pas ceci. L'homme n'a même pas la capacité de se libérer. Et même lorsqu'ils perçoivent cela, le Seigneur doit toujours attraper les deux mains et les tirer pour les faire sortir. Les tirer en dehors. Toujours attraper et tirer dehors. Sommes-nous ensemble? Et finalement, comme je finis cette partie de la vue panoramique, il dit que regardez, elle a regardé le monde. Ce qui veut dire que le salut de l'homme ne vient pas de l'homme. Sommes-nous toujours en train d'avancer ensemble? Très sérieux. Et il est en train de dire que simplement en train de prophétiser la chrétienté appartenant à une église, allant à une église, ne peut pas vous sauver. Simplement partir à l'église chaque dimanche ne peut pas vous sauver. Cela exige une vie transformée, une rencontre avec Jésus. Sommes-nous toujours ensemble? Et le Seigneur Jésus utilise une âme qui était perdue pour vous avertir. Il dit qu'elle s'est réjouie des privilèges de la communion avec les autres, les anges, et malgré cela n'est pas entrée. Dans ces jours, comme j'ai dit, il y avait de faux témoignages, il n'y avait pas de croisades, il n'y avait pas de témoignages. Merci d'écrire. Ceci est sérieux. Je devrais être en train de prêcher à un stade. Il n'y avait pas de Bible à ce moment. Il n'y avait pas de témoignage. Il n'y avait pas de célébration de la nuit est venue, les parties ont marché. Je suis simplement en train de comparer et analyser. L'Église du jour présent a tout à leur côté. Et donc, le Seigneur parle des avantages que l'Église du jour présent a. Et donc, Dieu est en train de dire qu'elle n'a jamais cru en Dieu. Elle n'a pas cru en Dieu. Elle a vécu et est morte sans foi. Elle est morte sans la piété, ce qui veut dire sans Dieu. Elle n'a jamais eu foi en Dieu. Elle n'a pas eu la grâce de Dieu, elle ne l'a pas reçue. Lorsque l'argent tombe, vous devez sortir et prendre. Lorsque la grâce est donnée, vous devez l'accepter. Vous avez votre partie, votre part. Ses yeux spirituels ne se sont jamais ouverts. Malgré l'avertissement du ciel pour se préparer et fuir, son affection sur les choses du monde était au contraire en train de s'augmenter. Et donc, en d'autres mots, quand la prophétie est en train de donner que le jugement arrive, elle n'a jamais cru en la prophétie de Dieu. Sommes-nous toujours ensemble? Personne ne répond, n'est-ce pas? La prophétie est venue que le jugement arrive. Si elle savait que ça allait véritablement venir, elle n'allait jamais regarder en arrière. Elle n'a jamais cru en Dieu. Elle n'a jamais eu foi en Dieu. Elle n'a jamais cru en la prophétie de Dieu, que la prophétie était véritable. Elle n'a jamais cru que la prophétie de Dieu s'accomplirait. Elle n'a jamais cru que la prophétie de Dieu s'accomplirait. Ses yeux spirituels sont restés aveugle, sans rester jamais ouvert, elle s'est focalisée sur des choses terrestres. Elle ne s'est jamais focalisée sur la Colossiens chapitre 3. Il dit, Colossiens chapitre 3, est-ce que nous sommes encore ensemble? Je vous aime toujours, peuple, avec l'amour de Christ. Avec tout mon cœur, je le fais, souvenez-vous. Car Jésus est mort pour la croix. Il est mort à la croix pour l'Église. Colossiens chapitre 3, donc elle s'est jamais focalisée sur les choses célestes, ce qui veut dire qu'elle s'est focalisée sur les choses terrestres. Donc Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1, je lis ce qui suit, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cette affirmation seule, je pourrais utiliser le livre de Romains chapitre 9, 11, verset 9 à 11, Romains chapitre 8, verset 9 à 11, où il dit « Depuis, cette écriture seule, Romains chapitre 8, pour expliquer cette affirmation. Pour vous, Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si. Merci, pour toi tu étais ici, cela n'était pas ici. Le si, trois fois. Ce qui veut dire si du tout en effet. Je comprends ceci. J'espère que vous êtes aussi en train de prendre. Ceci est très sérieux. Très, très sérieux ici. Pour que vous puissiez comprendre la première phrase, la première affirmation. Pour que vous puissiez comprendre la première phrase dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, regardez ceci maintenant. Alors cette affirmation devient si du tout vous avez été ressuscité avec Christ. Si vous avez véritablement été ressuscité avec Christ, c'est pourquoi je suis allé dans Romains chapitre 8 pour parler de la glorification et la résurrection et la glorification. À partir de là, vous comprenez donc l'affirmation de début de Colossiens chapitre 3 verset 1. En d'autres mots, il dit « si véritablement du tout, vous êtes en effet ressuscité avec Christ. » Ce qui veut dire, vous pouvez être dans l'église, mais la question est, êtes-vous ressuscité avec Christ? Si vous êtes ressuscité avec Christ, votre vie devrait être focalisée en haut là. Et c'est pourquoi vous voyez des chrétiens aujourd'hui dans l'église, mais leur cœur est athée. Est-ce terrestre, ils sont représentés par, souvenez-vous de la femme de Lot. Il dit Romains 8, je lis verset 9 à 11, il dit très clairement, au sujet de la glorification pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, c'est du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ce qui veut dire qu'il y a des chrétiens qui vivent avec la présence de Dieu en eux. Donc vous pouvez vous réjouir de des bénéfices de la glorification. Il dit deuxième si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu Christ, ce qui veut dire qu'il y en a qui n'en ont pas, il ne lui appartient pas. Regardez cela. Et si Christ est en vous, cela est sérieux. Il est maintenant en train d'établir un étendard pour lequel vous devriez mesurer votre salut. Vous devriez vous vérifier si véritablement l'Esprit du Seigneur est en vous ou ce n'est pas en vous. Parce que Madame Lot n'avait pas l'Esprit de Dieu en elle. Et il dit, je suis simplement en train d'utiliser cela pour élever la conversation de Colossiens chapitre 3. Il y a beaucoup. Souvenez-vous qu'on va à Ménégas chapitre 6, finalement la pluie est venue. Il dit ici, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit, un autre si ici, n'est-ce pas? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Rendra aussi la vie éternelle à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Très puissant. Ça, c'est l'écriture sur la glorification, les corps glorieux, la glorification. Et dans cette écriture, vous voyez très clairement qu'il est maintenant en train d'élever l'étendard de Dieu. Si, en vérité, L'Esprit de Dieu est en vous. Donc, quand on va à Colossiens, chapitre 3, vous allez comprendre mieux. Où nous voyons que la femme de Lot n'était pas focalisée sur les cieux, sur les choses célestes, mais elle était focalisée sur la terre. On va lire Colossiens, chapitre 3. Il dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, que pas tous ceux qui sont dans l'Église sont ressuscités avec Christ. Je suis juste en train d'étendre votre latitude afin que vous puissiez avoir des bourses d'études sur ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Cela est puissant, maintenant vous comprenez mieux. Que si vous êtes ressuscité avec Christ, donc la femme de Lot marchait avec eux, mais vous diriez que si elle est l'exemple de la section de l'Église qui n'a pas reçu son esprit, alors vous pouvez dire qu'elle n'avait pas l'esprit du Seigneur. Alléluia. Elle avait un mari juste. Vous avez vu comment est-ce qu'il a combattu pour les anges du Seigneur. Et donc, elle a vécu et est morte sans la foi. Elle n'a jamais eu foi en Dieu. Elle n'a jamais reçu la grâce. Et ses yeux spirituels n'ont jamais été ouverts par le Seigneur. Elle s'est focalisée sur des choses terrestres. Elle ne s'est jamais focalisée sur des choses célestes. Elle n'a jamais fait confiance à Dieu. Elle a aimé Sodome. Et par conséquent, Sodome était dans son cœur. Et il avance sans dire que son cœur aussi était en Sodome. Et c'est pourquoi c'est sur lui le Seigneur est en train d'avertir ici, des cieux, pour vous préparer et fuir. Il avertit, il est en train d'avertir l'Église du jour présent de se préparer pour partir. Cela est très sérieux. Le Seigneur est en train d'avertir sur l'affection et l'amour sans arrêt pour les choses du monde que vous voyez dans l'Église. Un amour et une affection excessive pour les choses du monde que vous voyez. Le plus moderne que le pays est, le plus moderne qu'il y a des choses qui sont dans l'Église. N'est-ce pas? Alléluia, c'est très très sérieux. Et il dit ici, qu'elle aurait dû avoir des possessions du monde. Pour qu'elle puisse regarder en arrière, elle a dû avoir des possessions du monde. Le Seigneur est en train de dire cet avertissement qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de vivre comme la femme de Lot dans ce siècle moderne. La majorité de l'Église est en train de vivre comme l'épouse de Lot. Malgré les Bibles, vous allez à un hôtel aujourd'hui, vous allez voir là Enoch n'a pas eu la Bible pour lire. Je peux dire, lorsqu'il a regardé les étoiles dans le ciel, cela lui a rappelé de là où est-ce qu'il vient. Quelle merveilleuse nature! Une création stupéfiante, les étoiles, les lunes, il a vu la création de Dieu. Donc, Enoch n'a pas eu la Bible, il n'a pas eu les témoignages des paralytiques qui marchent ici, pas du tout. Cela est stupéfiant là, n'est-ce pas? Il dit, Cette génération, malgré le fait d'avoir la Bible, les télévisions, vous voyez, vous êtes assis, vous voyez quelqu'un en train de vous prêcher. Les gens ont beaucoup de Bibles dans la maison. Si je demande à quelqu'un ici, je serais surpris du nombre que vous avez. Ils ont un assez grand nombre de Bibles. Alléluia. Ils ont des Bibles dans toutes directions. Il y a des Bibles. Et même sans l'Internet, ils ont des Bibles hors ligne. C'est vraiment stupéfiant. Il dit, malgré le fait d'avoir des Bibles partout, des témoignages à l'église, à l'évangile, en train de prêcher, la nuit est venue, la pluie est venue. Et encore, le cœur des chrétiens du jour présent est largement, largement sur les choses terrestres. Alors que les cieux ont investi énormément. Regardez par exemple la guerre que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez ces paralytiques qui ont marché, la nuit de Dieu qui est venue. Regardez comment est-ce que Dieu nous a transfigurés ici. Regardez ici, lorsque j'ai juste marché et la gloire sur moi. En Angola, les yeux aveugles, ces deux enfants. Lorsque je marchais, ces deux enfants ont pleuré vers moi. Ils m'ont dit, non, non, non. Notre mère est aveugle, s'il te plaît, ne va pas, parce que j'étais en train de partir de la réunion. Ils pleuraient, non, notre mère est aveugle. Lorsque je me suis retourné à la mer comme ceci, la gloire m'a quitté et a touché la mer. Elle est maintenant capable de voir les choses et de toucher. Cela seul. Regardez à Helsinki transfiguré. Regardez à Abidjan avant la pluie, la nuée de Dieu. À Kisumu, Dieu le Père lui-même. Cette parole seule est riche. Il y a un investissement très lourd des cieux sur cette génération. Regardez, les cieux m'ont indexé des cieux, la gloire qui m'indexait des cieux. Regardez, en train de marcher avec tout cela, le Seigneur est en train de nous identifier très bien. On n'a pas besoin d'être identifié encore. Et même que nous n'avons pas besoin qu'une autre prophétie soit accomplie. Les prophéties ont été déjà accomplies partout, vraiment stupéfiant, des tremblements de terre en Syrie. Vous avez vu les tremblements de terre, vous avez vu les inondations. Qui est en train d'ouvrir la porte comme cela? Des enfants de la lumière et des enfants du jour. Donc il dit, pour vous qui êtes dans la repentance et la sainteté, ce jour ne doit pas vous surprendre. Car vous entendez toujours le Seigneur en train de parler. Et il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Sobre ici veut dire en alerte, diligent, ne prenant rien pour acquis, en train de trembler aux réalités du salut que vous avez. En d'autres mots, vivons une vie chrétienne qui est mesurée pour l'entrée, un style de vie au quotidien, alerté sur les exigences de Dieu et la venue du Messie. Vous êtes enfants de la lumière et enfants des ténèbres. Vous n'abandonnez pas. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Il dit, le fait que le Messie arrive devrait vous emmener à vivre une vie qui est contraire, différente totalement à celui du monde à cause de la venue du Messie et la promptitude de sa venue, que quand vous savez qu'il peut venir et qu'il vient soudainement, l'imminence avec laquelle il vient est mise en lumière, alors cela devrait vous exhorter sur comment vous devez vivre, changer votre vie sur la terre. Vous devez vivre en train de l'attendre à tout moment. Et ça, c'est le meilleur moyen d'exécuter une vie chrétienne et entrer dans la gloire.
Putting our faith and love, our birthdays, and hope of salvation,
Puis il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle pour libérer les justes. Ça, c'est la pensée de Dieu. Il va toujours libérer les justes avant le jugement. Verset 10, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-il en train de dire que vous soyez endormi ou éveillé, vous êtes avec Christ. Il dit, en d'autres mots, ceux qui sont dans 1 Thessaloniciens, il dit, ainsi, vous serez avec Dieu pour toujours. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18, enlèvement de l'Église. Verset 17, il dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. On sera avec Christ pour toujours. Il dit que ça, ce n'est pas de voir le jour de l'enlèvement. Déjà qu'ils sont là, ils vivent avec Christ. Ils sont nés de nouveau. Quand Christ est persécuté, ils sont persécutés. Quand le monde les abuse, Jésus les abuse, ils ont le Saint-Esprit avec eux. Ils vivent déjà avec le Seigneur ici. Donc, quoi qu'ils meurent, avant l'enlèvement, ils vont direct avec Christ, attendant le jour où leur corps sera ressuscité. C'est le message que vous voyez encore Apocalypse chapitre 3, 10, 11. Souvenez-vous de la femme de Lot, il dit. Apocalypse 3, 10 à 11. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est l'enlèvement, ça c'est la fidèle de Dieu pour libérer ses justes avant l'enlèvement. Et verset 11, il parle de l'imminence. Il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Regardez ceci maintenant. Puis il dit que cette venue, je viens bientôt, c'est imminent. À une heure où vous ne vous y attendez pas. Un jour que vous ne connaissez pas. Et même le plus important ici, il dit la persévérance, persévérer. Vous vous souvenez, dans le livre de 2 Pierre, il parle de cette juste âme qui a été tourmentée par les choses mauvaises qu'il a vues et entendues. Donc, pouvez-vous imaginer qu'il a enduré la patience? Donc, toutes ces écritures émanent de l'écriture, souvenez-vous, de la femme de Lot. Parce que dans cette écriture, vous voyez très clairement que le Seigneur sort pour libérer les justes avant l'enlèvement, fidèlement, il a dit. Et vous voyez cela dans Genèse 18, 24, le fardeau. Genèse 18, 24, peuple béni. Il dit, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? En d'autres mots, le Seigneur est en train de raisonner là, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a par conséquent plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En d'autres mots, il est en train de dire quel est le point d'être né de nouveau et après que vous soyez sauvés, il va vous prendre, il va vous mélanger avec les méchants. Quel est le point du salut? Le salut est fait pour vous sauver de la colère de Dieu. Quand Dieu est venu, il est venu nous sauver de Dieu le Père. Jésus est venu pour sauver l'homme de la colère de Dieu le Père. Parce que Dieu le Père doit juger le péché. Et c'est pourquoi Genèse 19, verset 22, quand je finis, il dit, à toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Je veux juste terminer avec une affirmation. On va continuer demain. Juste une affirmation ici. Nous avons vu que la grâce de Dieu a des limitations. Il y a des limites pour la grâce de Dieu. Un temps arrive où la grâce de Dieu est limitée. Ah, c'est la première chose que vous voyez là. Que pendant un long moment, l'Éternel a attendu que les gens de Sodome et Gomorrhe changent leurs moyens. Ils ont crié, leur cœur ont crié pendant longtemps. Puis, lorsque le temps est arrivé, il a frappé et les a détruits. Et la même chose est en train d'arriver dans ce siècle. Il y a assez de péchés. Les cris qui sont en train d'arriver au Seigneur sont énormes. Tout pays a légalisé l'homosexualité. Ils sont en train de faire des parades, de grandes parades de l'homosexualité, de grandes parades de gays partout. Les cris contre cela pour les justes envers le Seigneur sont énormes, comme à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit que aussi longtemps qu'ils sont en train de souffrir pour que vous puissiez vous repentir. Et quand la limite va arriver, Dieu va juger. Cette grâce, que ce soit véritablement énorme à un point, lorsque ça atteint sa limitation, Dieu doit juger maintenant. Et ça, c'est le point de non-retour. Vous voyez cela très clairement. Et nous avons vu aussi que Dieu est en train de se justifier, en train de juger. Parce que si vous regardez l'homosexualité qui est arrivée à Sodome et Gomorrhe, il dit littéralement « Tout homme jeune et vieillard de toute partie de Sodome, cela est massif. » Et si vous regardez l'homosexualité dans ce siècle, c'est incroyable. Vous vous demandez quel type de jugement est-ce que ce siècle prendra. Ce sera pire. Parce que Sodome et Gomorrhe n'est pas sorti pour célébrer l'homosexualité et le gay. Et les chaussures, les jupes, un homme qui porte les jupes, les robes dans les parades de homosexualité, ils n'ont pas fait du transgenre. Le transgenre n'était pas à Sodome. Et donc le Seigneur est en train de dire que le jugement de cette génération sera massif. Que Dieu atteint un endroit où il doit libérer sa colère et le jugement de Dieu arrive. Ils ont été avertis, ils ne se sont pas repentis et même maintenant vous avez été avertis. Et nous avons aussi vu comment est-ce que Dieu répond à la méchanceté. Lorsque vous lisez la conversation, en Genèse 18, lorsque Dieu le Père lui-même maintenant vient avec les anges pour parler à Abraham, alors vous réalisez que Dieu répond à la méchanceté lui-même. Lui-même, Dieu lui-même vient. Cela est très sérieux. Donc la méchanceté est une grande gravité devant le Seigneur, une gravité incroyable devant le Seigneur. Et le Seigneur avertit que soyez très prudents. Si vous regardez Genèse 19, verset 4, nous avons vu que tout homme, excepté Lot, était homosexuel. Soyez très prudents au sujet de l'homosexualité, parce que à Sodome et Gomorrhe, il leur est arrivé. Ce péché était habituel. Les gens ont accepté. Cela a consumé la société tout entière. Cela a pris le contrôle sur tout siècle de groupe parce que la Bible dit Genèse 19, 4, les jeunes et les enfants et les vieillards. Il dit que le péché de l'homosexualité est le péché sexuel, même l'homosexualité est très infectieux. Lorsque l'homosexualité entre dans une société, elle peut consumer la société entière. La société entière. Cela est très sérieux. Et il est en train de dire que dans cette génération, je n'ai pas besoin de vous prêcher cela. Vous avez simplement besoin de regarder à une génération là où vous êtes et regarder comment est-ce que chaque nation, toute nation a légalisé l'homosexualité, parce que le riche le sont. Ce n'est pas différent de ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Ça les infectait eux tous. Et maintenant, c'est populaire pour être gay. Il est populaire d'être transgenre. Il est populaire d'être homosexuel. Si vous regardez en Islande, 87%, ils disent qu'ils aiment le gay. Mais si vous partez partout dans le monde, vous allez voir que lorsqu'ils ont l'opinion, chacun a des sentiments favorables envers l'homosexualité. Ils veulent que l'homosexualité soit légalisée. Tout le monde est favorable à l'homosexualité. Regardez le cas du Brésil où c'est 3 sur 5 hommes qui sont gays. Et certains des dirigeants parlant avec moi, les dirigeants principaux, nous étions en train de parler de cette importance, de cette question dans l'une des réunions. Et ils ont dit, mais tu dois aussi inclure les lesbiennes parce que le pourcentage de lesbiennes est grand, est plus grand partout en Suède, en Finlande, partout. Cela a consumé tout le monde entier. L'homosexualité est comme un feu de brousse maintenant. Donc ce n'est pas différent de ce que vous voyez à Sodome et Gomorre. Soyez prudent avec le péché de l'homosexualité. Très, très infectieux, comme un feu de brousse qui consume la nation tout entière. Mais maintenant, regardez, dans ce siècle, cela a consumé le monde tout entier. Toute nation, toute autre nation a légalisé l'homosexualité. C'est maintenant ouvert. Cela est incroyable. Et si vous regardez l'opinion, chacun, tout le monde dit qu'ils sont favorables, ils ont une opinion favorable envers l'homosexualité, il dit c'est ok, mon Seigneur, mais cela est sérieux. Lorsqu'il dit souvenez-vous de la femme de Lot, c'est très sérieux. Cette génération est tombée directe. Et donc, l'avortement est aussi compris. L'avortement est compris maintenant. Les drogues, l'avortement légalisé, la marijuana, les drogues sont en train d'être légalisées, les avortements sont légalisés, les sexes avant mariage sont légalisés dans ce siècle. Et je veux finir avec un avertissement, le livre de Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, comme je termine. Romains chapitre 1, le Seigneur dit, si on peut lire ensemble. Monsieur le riche, le soin est comment? Ok. À partir du verset 20. Si vous avez le temps, vous lisez juste.
Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are left without any excuse on the day of judgment. For although they knew God, they neither glorified him.
Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1 à partir du verset 20. Verset 21, verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26, Romains chapitre 1, c'est pourquoi Dieu les a livrés, c'est la deuxième fois maintenant qu'il les a livrés, à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient, que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, ce que Dieu promet là, c'est qu'il doit juger. Que ceux qui veulent recevoir le Seigneur se mettent à genoux, disent, dites puissant Seigneur Jésus, je me repens aujourd'hui et je me détourne du péché. Et je te reçois, mon Seigneur Jésus, dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te demande, mon Seigneur Jésus, de retirer la complaisance de mon cœur et sensibilise mon cœur sur la venue du Messie. Et garde-moi sur le chemin de la justice et la sainteté. Je t'ai reçu, mon Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Remplis-moi donc avec le Saint-Esprit dans le puissant nom de Jésus. Je suis né de nouveau. Amen. Merci.